Eh ben, merci beaucoup pour ta présentation.
Merci.
Je vais me présenter très brièvement. Donc, je m'appelle Thibaut Raginel, je suis chef de clinique de médecine générale ici à l'UFR Santé. Et donc, on m'a demandé de modérer un petit peu les échanges après la présentation de Sophia pour lancer les questions et puis m'aider un petit peu à animer tout ça. Merci beaucoup d'avoir traité ce sujet. C'est vrai que c'est des questions qu'on pose rarement aux pères.
Ouais.
C'est vrai que moi, en tant que médecin et père, ça m'a vraiment intéressé de voir un petit peu, de lire un petit peu ce que tu avais fait dans ton travail. Et là, tu conclues un peu sur l'information à apporter au père. Toi, si on disait comment tu comptes lancer ça, tu lancerais ça comment?
Alors, en fait, au moment du travail de thèse, on s'était posé la question justement d'une fiche information à distribuer au père. Et on s'est rendu compte que c'était peut-être pas si percutant que ça, parce que les pères cherchaient plutôt une information soit directe par des échanges, ou bien via des applications, enfin quelque chose d'un peu plus moderne qu'une fiche simplement qu'on distribue, un papier qu'ils vont perdre. Et donc voilà. Mais on s'était effectivement posé cette question-là. Et puis en tant que médecin, depuis que j'ai fait cette thèse, depuis que je travaille sur ce sujet, quand je rencontre des futurs pères qui viennent avec leur femme qui est enceinte, j'essaie de les sensibiliser justement sur cette question de l'allaitement, de voir déjà qu'est-ce qu'ils souhaitent, s'ils sont déjà décidés sur le mode de nourrissage en fait de l'enfant, s'ils en ont déjà discuté. Et puis ne serait-ce que de leur en parler, et ben, ça permet parfois de débloquer un petit peu les choses dans le couple et qu'ils en parlent eux-mêmes, qu'ils prennent leurs décisions. Et rien que ça, rien que de les interpeller sur le fait qu'ils peuvent avoir un rôle dans le soutien à l'allaitement et qu'ils peuvent être décideurs aussi, c'est déjà un premier pas vers le soutien, quoi. Le but, en fait, en tant que médecin, c'est d'aller vers la promotion de l'allaitement maternel. Et comment faire pour cela? Ben, on arrive souvent à discuter avec les futures mamans parce qu'elles viennent consulter. On voit bien, elles sont enceintes. Donc, on va leur en parler plus facilement. Et puis même, elles vont parfois poser des questions avant la naissance. Mais les pères sont beaucoup plus difficiles à capter. Notamment, je saisis toujours l'opportunité quand... qu'ils accompagnent leur femme. Voilà.
Donc il faudrait peut-être aller chercher les pères quand on est soignant, donc sensibiliser les soignants à aller chercher les pères.
Bah, tout à fait. Alors j'étais venue à la semaine de l'allaitement l'an dernier, du coup, au CHU. Et j'avais participé aux échanges qu'ils proposaient. Il y avait une sage-femme qui proposait tout un petit topo sur l'allaitement, donc c'était une entrée libre, ça pouvait être les femmes ou les hommes qui pouvaient venir aussi, les futurs papas. Sur toute la journée où j'y suis allée, il y a eu un homme qui est venu, mais qui du coup a été sensibilisé. Mais c'est vrai qu'il est plus difficile d'aller les chercher parce que, comme je le disais, ils recherchent peu l'information, quand bien même ils se posent des questions, et ils vont bénéficier de l'information par ricochet. Donc ils attendent en fait de leur femme qu'elle leur délivre aussi les informations. Et puis c'est aussi plus difficile de les avoir parce que toutes les réunions qui sont proposées aux femmes se font en journée, en plein milieu de journée, en semaine. Les femmes ont du temps à se libérer au moment du congé maternité, mais les hommes, le congé paternité, il arrive après. donc c'est plus difficile.
Et c'est vrai que tu nous parlais du congé paternité. C'est 11 jours, mais ce n'est pas 11 jours de travail, c'est 11 jours consécutifs.
Ouais.
Donc c'est une semaine et demie. C'est super court pour s'impliquer dans un allaitement qu'on va programmer pour 3 mois, pour 6 mois, pour un...
C'est pour ça qu'il est intéressant d'en discuter au préalable, justement, dans le couple. C'est court, mais ça a le mérite d'exister quand même, ce congé paternité. Il y a aussi le congé prépare, prestation partagée pour l'éducation de l'enfant, qui permet à chaque personne du couple de prendre 6 mois de congé. Donc, ceux qui le souhaitent peuvent prendre plus, mais après, c'est des arrangements aussi au niveau professionnel. 14 jours, c'est court. Ça n'empêche que... durant ces 14 jours, il y a eu le retour à la maison qui est une étape décisive en fait, parce que l'allaitement se met en place à la maternité. Ensuite, la femme se retrouve toute seule à la maison et souvent des allaitements qui se passent très bien à la mater. Les femmes arrivent à la maison, commencent les complications et puis le sevrage se fait très vite et c'est ce qu'on voyait dans les taux. C'est qu'en fait, les taux sont relativement bons, 74% d'allaitement à la naissance, c'est pas mal. Le problème, c'est que ça chute brutalement à 3 mois. Et ça, c'est souvent parce que la femme ne se sent pas soutenue et elle est seule. Et si elle est seule face à ses difficultés et qu'en plus le père, il n'est pas forcément favorable à l'allaitement, bah, c'est clair que l'allaitement s'arrête. Donc quand même, si le père est présent et qu'il sait qu'il va pouvoir avoir un impact sur cette durée d'allaitement, il va peut-être prendre plus son rôle à cœur et agir dès le retour à la maternité. Et puis, même s'il a repris le boulot, il est là la nuit aussi. Il peut aider aussi.
Ok. Et tu ne penses pas que plus de parité, pour qu'il y ait plus de temps pour l'aider au quotidien, gérer les complications, ça ne pourrait pas aider ?
Plus de parité, au niveau...
plus de temps de présence.
Au niveau du congé, toujours. Ouais. Ouais. Bah, c'est ce qu'ils essaient d'instaurer justement avec ce congé prestation partagée pour l'enfant là, et l'éducation. Mais ce n'est pas un congé qui est obligatoire. Et puis c'est sous certaines conditions professionnelles. Alors je m'étais un peu plongée dedans au moment de ma thèse, mais en fait financièrement il y en a pour qui ce n'est pas possible parce que leur salaire va être nettement diminué pendant ces 6 mois, donc il faut pouvoir assurer derrière aussi. Mais ça se fait dans d'autres pays. Hein. Mmh. En Norvège, ils ont un an, ils prennent un an de congé. Le père prend un an, la mère prend un an. Et c'est pas pareil. Et c'est pour ça qu'on a des taux d'allaitement qui sont très importants.
Mmh. Et tu nous disais d'ailleurs que les pères qui ont répondu étaient plutôt de catégorie socio-professionnelle favorisée.
Oui.
Du coup, si ce congé est aussi fonction du niveau socio-économique, ça va induire une inégalité dans la population pour l'allaitement maternel.
Oui, tout à fait. Et ouais. Alors, il y avait des études aussi qui avaient été faites qui montraient qu'en fait, l'allaitement, ça a beau être économique. Étrangement, c'est les niveaux socio-économiques élevés qui allaitent le plus et que les bas niveaux socio-économiques, peut-être faute d'informations ou de... peut-être faute de connaissances, allaitent beaucoup moins, alors que ce serait pour eux que ce serait intéressant, justement, économiquement parlant, en fait. Le lait industriel coûte cher.
Très cher. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, peut-être. Je ne vais pas monopoliser les débats. Sur l'allaitement en général.
Juste une petite... un petit prolongement de ce que tu disais, Thibaut, sur la réflexion sur le congé pater. Effectivement, je trouve que le signal social du vous êtes le papa, vous avez le droit à 10 jours pour accueillir votre enfant, vous êtes la maman, vous avez le droit à 2 mois, il est quand même assez fort, quoi. Enfin, bon, du coup, moi je serai maman, je serai pas papa, mais je me dis à la place du papa, ça peut quand même vouloir dire. Bon, bah, de toute façon, vous n'êtes pas indispensable non plus à l'arrivée de votre enfant. Donc ce n'est pas la peine de prendre plus de jours. Enfin, je peux comprendre que ça puisse être senti comme discriminant par des papas quand même. Parce que c'est assez court quand même.
Oui, tout à fait. Ça me rappelle que dans les papas que j'ai rencontrés, il y en a qui avaient aménagé aussi leur planning. On voit souvent les femmes, une fois qu'elles ont des enfants, elles vont faire un 80% ou un mi-temps. Et bien, j'ai rencontré des papas qui faisaient aussi ces démarches-là pour être plus présents auprès de leur enfant. Et ça, je pense que c'est aussi dû à cette prolongation du congé paternité qui est récent, qui permet... au père d'être présent et impliqué dès la naissance, alors qu'avant, historiquement, il s'impliquait à l'entrée à l'école ou l'entrée au CP, quoi. Donc c'était quand même hyper tardif. Et actuellement, on leur laisse la possibilité de s'impliquer autant que la maman dès la naissance pendant ces 14 jours. Peut-être que ça leur fait cette prise de conscience qui fait que derrière, ils vont adapter aussi leurs horaires, ils vont essayer de finir plus tôt alors qu'ils étaient très carriéristes et qu'ils ont une profession qui les passionne. On voit de plus en plus des pères qui essaient de consacrer du temps à leur enfant. Il y en avait un qui me disait, pour rien au monde, je raterai le moment où je vais chercher mon enfant à la crèche. Il me fait des grands sourires, il accourt vers moi. Ben, c'est la plus belle des récompenses, quoi. Donc, ils prennent vraiment conscience que c'est plus une dyade, que c'est devenu une triade père-mère-enfant et qu'ils ont tout à fait leur place et leur rôle à jouer.
D'autres rôles de gestion ?
Oui, j'étais frappé aussi par la différence hein, dans les chiffres taux d'allaitement entre la Norvège et la France. Alors, vous avez évoqué une des explications dans les modalités de congé parental. Je sais que ce n'est pas exactement le cœur du sujet, mais est-ce qu'il y a d'autres explications que vous avez vues dans vos recherches et qui pourraient être intéressantes à partager aujourd'hui ?
Alors, effectivement, il y a eu toute une politique pro-allaitement en fait, dans les pays nordiques. Qui a fait qu'il y a eu une grosse prise de conscience de la part des femmes des bénéfices de l'allaitement maternel. Et c'est presque mal vu finalement de ne pas allaiter. C'est aussi mal vu de ne pas prendre son congé maternité prolongé pour perdurer l'allaitement. Tout est mis en place pour accueillir les femmes qui allaitent. Dans les centres commerciaux, il y a des zones allaitement avec des fauteuils, avec de quoi changer l'enfant. Enfin, voilà, des zones qui sont vraiment propices au calme, où les femmes se retrouvent entre elles. Allaiter en public n'est pas du tout un problème. Voilà, c'est tout un concept, mais ça a démarré d'une démarche politique pro-allaitement pour que ça se mette en place, en fait. C'est pas encore le cas en France. Et quand il y avait des pères qui me disaient que ça pouvait être une question de culture aussi, l'allaitement, c'est un papa qui allait régulièrement en vacances en Espagne et qui me disait qu'en Espagne, il y avait aussi ces structures-là, dans les bars par exemple, où il y avait différentes zones et il y avait une zone allaitement où venez allaiter, on vous paye un café. Enfin, des démarches comme ça, vraiment pro-allaitement. Favoriser.
L'incitation de sociabilisation de l'allaitement. Quoi,
c'est ça. Alors qu'en France, c'est mal perçu et un père me racontait que sa femme était rentrée choquée une fois d'une consultation. Elle était allée chez son médecin généraliste dans une salle d'attente commune avec d'autres médecins qu'elle allaitait parce que c'était le moment pour l'enfant de téter. Et qu'il y a une femme qui est sortie de la salle d'attente en disant que c'était honteux et que c'était dégueulasse de faire ça en public, quoi. Donc voilà, c'est pas toujours bien accepté encore maintenant.
On garde une grande pudeur. J'ai beaucoup de mères qui, moi, n'osent pas allaiter dans la salle d'attente de peur, effectivement,
de gêner.
De se regarder à l'extérieur.
Oui. Ouais.
Et globalement, les pères que tu as interrogés, ils avaient plutôt un ressenti, au final, positif, négatif, et que du positif ?
Alors, dans les pères que j'ai interrogés, il y avait un futur père, donc lui, il se posait beaucoup de questions. Ouais. Et du coup, ça l'a pas mal aidé à réfléchir sur le sujet et à en discuter ensuite avec sa femme. Et il y avait un père qui, lui, n'était pas contre, mais n'avait pas vu vraiment l'intérêt. Il s'était vraiment senti exclu et il a trouvé qu'il avait sa place auprès de son enfant à partir du moment où il a donné le premier biberon, quoi. Vraiment, pour lui, ça a été magique. À ce moment-là, il s'est senti important pour son enfant. Il se sentait fortement exclu du nourrissage. Il s'avère que c'était une maman qui avait voulu faire de l'allaitement mixte. Par choix, parce qu'elle trouvait que c'était contraignant l'allaitement, et du coup ça lui permettait aussi de partager un petit peu les tâches et que le papa s'occupe de l'enfant. Donc voilà, mais sinon les autres pères, alors c'était aussi, je ne les ai pas tirés au sort hein, les pères, donc ils étaient quand même volontaires pour participer à cet échange. Du coup ils étaient la plupart favorables à l'allaitement.
Et je n'ai pas retenu, mais peu de pères, ou vous n'en avez pas parlé, ont évoqué la question du lait maternel tiré qu'ils donneraient au biberon, que ça permet à la mère de se reposer éventuellement pleine nuit. Enfin, ça, pour la reprise du travail, pour l'investissement du père, ça peut être une option. Oui. Et du coup, dès qu'ils parlent biberon, ils parlent lait maternisé industriel.
Oui, il y a eu... Non, il y a eu un père où le lait maternel était effectivement tiré et donné au bib, mais après, il faut que l'enfant accepte aussi le biberon, hein, parce que quand il est habitué à téter au sein, le biberon, ce n'est pas la même façon du tout de téter. Et donc, il y a des enfants qui vont prendre le lait maternel à la sourde, mais qui n'arriveront pas à le prendre au biberon. Donc, ça, c'est, on peut essayer, voilà, mais il peut y avoir aussi des difficultés face à ça. Et ensuite, proposer un lait industriel la nuit, éventuellement un biberon pour soulager la maman, c'est ce qu'on appelle l'allaitement mixte. Il faut savoir que moins le bébé vient au sein, moins il y a de lait aussi. Donc plus on espace les tétés, moins il y a de lait. Donc ça peut aussi aller vers un tarissement du lait et c'est pas l'objectif en fait de la maman. Et un autre point qui est important, c'est que le pic de prolactine chez la maman se fait à 4 heures du matin, enfin se fait la nuit, on dit arbitrairement à 4 heures du matin. Et donc d'enlever la tétée la nuit, c'est un peu une hérésie parce que c'est justement le moment où il y a le plus de lait et la mère, elle a les seins gonflés. Et du coup, c'est quand même propice à ce moment-là que ce soit la mère qui donne le sein plutôt que le père qui se lève pour donner un biberon. Ouais.
Ah, je parle pas forcément de la fin de nuit.
Oui. Ah oui, ça peut être le début de nuit, c'est sûr. Mais d'ailleurs, il y a des papas qui le faisaient très bien. Il y avait une maman qui était épuisée apparemment, ce qui peut se comprendre. Et le papa expliquait qu'il se levait la nuit pour aller chercher l'enfant, qu'il le mettait au sein, que sa femme se rendormait, lui tenait l'enfant au sein et ensuite allait le recoucher, quoi. Donc voilà, on peut aider vraiment. Parce que le réveil la nuit, c'est pas seulement l'enfant qui vient automatiquement au sein et qui se rendort dès que c'est fini. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, voilà, le bébé se réveille. Il faut réussir à le mettre au sein. Ensuite, il y a le temps de la tétée et après, il faut le rendormir.
Et une couche aussi entre deux en général.
Ouais, et une couche et un change. Voilà, les parents. Ouais. Ouais.
J'ai pas eu le temps de voir dans ton descriptif des pères. Est-ce que tu avais des cas de pères qui avaient un premier bébé allaité, puis après qui avaient changé d'avis, qui étaient passés au biberon ou l'inverse ?
Alors non, j'ai pas eu ce cas-là. Donc c'est vrai que j'ai interviewé que 6 papas. La plupart avaient eu un enfant. Il y en avait un, ils attendaient le deuxième, et un qui avait 3 enfants. Celui qui attendait le deuxième, il disait on verra pour l'allaitement, voilà, ma femme veut réessayer, on va voir comment ça se passe. Mais c'était eux qui avaient adopté l'allaitement mixte, et lui, il n'était pas spécialement favorable et il poussait pas non plus tellement sa femme. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui s'est passé pour ce papa-là, si finalement il a été allaité le deuxième. Il faudrait que je reprenne contact, mais globalement c'était des primipères en fait.
D'autres questions dans la salle ? Je ne vais pas monopoliser le débat.
Une question, alors j'espère que vous n'avez pas donné la réponse pendant l'exposé, c'était inattendu.
C'était un petit peu long, donc.
Non. C'est pour savoir comment a été fait le recrutement du groupe des 6 pairs, voilà, comment vous avez procédé.
Donc c'était un recrutement de proche en proche, donc ça veut dire que moi j'ai cherché dans mon entourage, mais aussi par exemple des amis d'amis où j'ai eu dans le lot, il y avait un patient que j'avais rencontré en fait en consultation et qui était venu de lui-même avec son enfant et qui avait l'air hyper impliqué. Et je me suis dit, peut-être que lui il voudrait bien me parler d'allaitement. Mais sinon, c'était une certaine barrière en fait d'être le médecin à son poste de travail au cabinet médical. Il y a une hiérarchie qui se crée en fait au cabinet médical qui fait que c'est pas très opportun pour aller recruter au cabinet. Donc il n'y en a qu'un seul que j'ai pu avoir comme ça. Il y en a d'autres à qui j'avais laissé mes coordonnées mais qui ne m'ont pas recontacté. Il y a eu aussi la semaine de l'allaitement au CHU où j'avais laissé mes coordonnées pour pas forcer non plus, hein, c'était pas évident, mais j'avais rencontré très peu d'hommes, c'était surtout des femmes qui étaient venues et certaines femmes m'avaient dit mon mari serait peut-être intéressé et en fait ça n'a pas donné de suite non plus. C'est quand on fait du qualitatif, c'est-à-dire qu'on rencontre vraiment les gens dans l'environnement qu'ils souhaitent, mais souvent j'allais chez eux ou alors on se rencontrait dans un lieu public, ça leur coûtent quand même de leur personne, ils ne savent pas trop, ils sont un peu inquiets. Donc, ce n'est pas toujours évident, on ne peut pas l'imposer en tout cas, il faut qu'ils soient volontaires. Et le fait de faire un recrutement de proche en proche, ça permet d'avoir par exemple un interlocuteur commun. Si j'interrogeais quelqu'un que je ne connaissais pas, mais dont on avait un ami en commun, ça mettait en confiance et ça permettait justement qu'il se confie plus facilement et qu'il y ait, qu'il y ait un environnement favorable pour la discussion. Donc c'était vraiment de proche en proche. J'ai parlé de ma thèse à peu près tout le monde que je rencontrais tout le temps et puis voilà, c'est comme ça que j'ai recruté.
Il y a eu combien d'entretiens avec chacun ? J'imagine que puisqu'ils n'étaient pas tous dans la même situation vis-à-vis de la paternité, ce n'était pas à des moments précis de leur...
Ouais, effectivement.
De l'âge de l'enfant, par exemple.
Tout à fait. Donc, dans les papas que j'ai interrogés, il y en avait dont l'enfant était encore allaité, d'autres, il y avait déjà eu le sevrage. La plupart du temps, le sevrage avait été fait, donc ils avaient un recul sur l'allaitement. J'ai plus en tête les chiffres exacts, voilà, mais il y avait un primipère, les autres étaient déjà pères, l'un avait deux enfants, un autre trois, et puis tous les autres, les trois autres, c'était des primipères. Donc voilà, le délai le plus long entre l'allaitement et le moment où moi j'ai interrogé, c'était 6 ans. Chose que dans d'autres thèses qui avaient été faites sur les pères, les délais étaient très courts parce que pour un recrutement plus facile, on avait pris les pères à la sortie de la maternité, voilà, quand ils venaient chercher la maman, l'enfant, et on les questionnait à ce moment-là, puis peut-être un petit peu plus tardivement, mais on était toujours dans le postpartum précoce en fait. Donc là, il y avait un petit peu plus de recul sur les histoires d'allaitement, ce qui permettait d'avoir des réponses relativement variées. C'est ça qui est intéressant aussi dans le qualitatif et la manière dont j'ai fait mon analyse thématique, c'est qu'à chaque fois que j'avais fait un entretien, je le retranscrivais immédiatement et j'attendais d'avoir fait l'analyse thématique avant de recruter un autre père pour avoir un panel le plus large possible en fait. Tout en sachant que le recrutement étant quand même de proche en proche, ça impliquait des biais.
Et du coup, aller recruter les papas dans les cabinets de médecine générale
C'est pas facile.
En 10 ans, ouais, c'est pas facile.
Pour faire les entretiens ?
Je ne sais pas, d'aller chercher des généralistes et de leur dire, est-ce que vous pourriez essayer de m'envoyer des papas, que leur femme est allaitée ou non, pour parler allaitement avec eux.
Les médecins que je remplaçais, je leur en avais parlé effectivement, et non, ça n'a pas été très fructueux de ce point de vue-là. Mais ça aurait été effectivement un interlocuteur commun. Après, quand on ne rencontre pas les gens en direct ou qui nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, c'est un peu délicat d'aller les aborder, surtout sur un sujet qui est assez intime, l'allaitement maternel. Il y avait beaucoup d'émotions qui passaient dans ces entretiens, donc pour moi c'était très enrichissant et très intéressant. Ils étaient assez bavards pour la plupart, donc j'ai eu des entretiens à rallonge. Ça durait une heure en moyenne, les entretiens. Donc après, pour retranscrire, c'est du boulot. Mais voilà, faut qu'ils soient partants et en confiance pour que ça fonctionne pour le recrutement.
Et du coup, t'en as parlé aux médecins que tu remplaçais, et du coup, la perception des médecins avec lesquels t'en as parlé, de ton sujet, de la place du père dans l'allaitement, ça leur parlait ? Ils étaient sensibilisés à ça ou...
Ils n'étaient pas tellement sensibilisés. Et oui, certains, ça leur a fait réfléchir effectivement sur le fait, tiens, ce serait une bonne idée, surtout que quand on est médecin généraliste, souvent on suit le conjoint ou la famille, donc on est vraiment un interlocuteur privilégié pour la promotion de l'allaitement maternel. On a un rôle primordial, on connaît bien les familles, donc dès qu'on sait qu'il y a une femme qui est enceinte, on connaît généralement le conjoint, voire même les parents de cette femme et ses autres enfants, donc c'est facile d'aller aborder le sujet quand on connaît bien les familles. Donc quand on est médecin de famille, moi je suis remplaçante, donc je ne connais pas très bien les familles, mais quand on est vraiment installé, il suffit d'y penser et c'est facile d'aller ouvrir la discussion là-dessus.
Si on arrive à attraper le père.
Oui, C'est ça.
Par hasard, en consultation, c'est possible.
Ouais.
Après, il y a l'entretien prénatal précoce, où normalement on a la mère et le père.
Mais c'est déjà pas un entretien qui est obligatoire non plus. Ouais. Et
on a du mal à le faire, parce que les pères ne sont pas souvent là.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est ça, quand les femmes ont un souhait de grossesse, souvent elles viennent consulter leur médecin, mais effectivement elles ne viennent pas forcément accompagnées. Avant, il y avait une consultation prénuptiale, ça s'appelait, où effectivement on avait l'homme et la femme qui se destinaient à se marier et donc potentiellement à avoir des enfants, et on leur parlait de tout un tas de choses, et c'était un point qui pouvait être abordé à ce moment-là. Et d'ailleurs, docteur Éric Leroyer à Honfleur, il a œuvré là-dessus, il est très impliqué dans l'allaitement maternel, il a co-dirigé nombre de tests sur l'allaitement. Et donc, il le faisait dans son cabinet au début de son activité, ses entretiens prénuptiaux. Et c'était le moment propice pour aborder ce sujet. C'est quelque chose qui a disparu parce que ce n'est plus du tout dans l'air du temps. Mais il faut réussir à capter effectivement le papa quand on le peut.
C'est pas facile.
Voilà.
Les attraper. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ?
Oui, non, j'ai une dernière question. C'est là, vous avez soutenu votre thèse récemment. Donc c'est un sujet que vous maîtrisez bien maintenant, l'allaitement. Je voudrais savoir comment est-ce que vous voulez faire fructifier toutes ces connaissances que vous avez pu acquérir pendant la préparation de la thèse. Alors il y a la semaine de l'allaitement qu'organise le CHU. Je pense que c'est un événement qui a lieu tous les ans.
Ouais.
Et au-delà de ça, est-ce que vous envisagez des débouchés sur ces compétences-là dans votre parcours professionnel?
Alors je me pose des questions effectivement sur le. Il y a un DU de lactation qui existe pour justement accompagner les femmes qui allaitent et puis du coup les hommes aussi, ce serait bien. Et puis sinon, dans ma pratique, maintenant, je fais plus attention au niveau des consultations. J'essaie de capter ces futurs papas pour leur en parler ou ouvrir le sujet avec le couple. Et sinon, venir comme ce soir, vous présenter le topo, sensibiliser un petit peu sur le sujet. Et puis parce qu'il reste beaucoup de choses à faire sur ce plan-là. Mais moi, je compte effectivement le mettre en application dans ma pratique de tous les jours, quoi, c'est sûr.
Merci.
Merci.
Sur le plan générationnel, que ce soit dans la littérature ou avec les entretiens que vous avez dirigés, est-ce que vous avez un écho sur le rôle des pères, du papa et de la maman ?
J'ai pas bien saisi la question. Du coup, c'est
sur le plan générationnel, ouais. C'est-à-dire que dans l'histoire du couple,
oui.
Maman allaitait rôle de son propre père, papa allaitait rôle de son propre père. Est-ce que vous avez eu un écho par rapport à des histoires personnelles de ce type ?
Donc je leur ai posé la question effectivement s'ils avaient été allaités ou pas et puis comment ça se passait dans leur environnement. Alors il est clair que quand toute la famille a allaité, eux ils se posent même pas la question, ils sont favorables pour que leur femme allaite. En revanche, lorsqu'il n'y a jamais eu d'allaitement, dans leur entourage, amis, famille, ceux que j'ai rencontrés, forcément, il y a eu un allaitement pour leurs enfants, mais du coup, ils ont été informés soit par leur conjointe, soit ils en ont pris conscience et ils se sont renseignés. Et la décision a été ensuite une décision de couple. Mais j'ai envie de dire, il n'y a plus de transmission, comme je le disais, intergénérationnelle, où les pères transmettent à leurs fils, etc., parce que les familles sont de plus en plus disparates, qu'il y a peut-être moins de communication, finalement, et que c'est un sujet qui est peu abordé, en tout cas, entre pères. Et il y a plus une communication entre pères. Les jeunes pères que j'ai rencontrés me disaient avec leurs amis ils vont en parler, mais avec ceux qui ont déjà eu des enfants par exemple, et donc la transmission va se faire de façon plutôt horizontale et pas intergénérationnel. Et effectivement, si on regarde dans l'histoire un petit peu de l'allaitement, il y a eu toute une période où, avec la montée du féminisme, le fait de l'indépendance des femmes, où on a dit stop à l'allaitement, le biberon c'est la liberté, et en vérité, c'était une hérésie, le rôle de la femme dans l'allaitement, il ne peut pas tellement être remplacé. C'est plutôt de faire prendre conscience aux hommes qui peuvent s'impliquer dans l'allaitement maternel, que ça n'est pas que la femme qui doit s'en occuper et qui doivent s'impliquer dès le départ, dès la naissance, en fait, dans ce rôle et cette création de la famille. Effectivement, il y a eu toute une génération génération qui a 60, dans les 60 ans, où il y a eu peu d'allaitement parce que il y a eu beaucoup de publicité à ce moment-là sur le lait industriel, ce qui n'est plus autorisé maintenant. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de biberons qui ont été donnés, une grosse chute de l'allaitement. Et si les femmes des générations au-dessus n'allaitaient pas, quand elles vont voir leur fille ou leur petite fille qui essaye d'allaiter, eh ben, elles ne vont pas les soutenir, en fait, parce qu'elles vont dire « Mais pourquoi tu t'embêtes avec ça? Donne un biberon. Regarde, il a faim, donne un biberon. » Et donc, c'est la solution pour elles de facilité. Et elles ne comprennent pas ces jeunes femmes qui veulent à tout prix allaiter. Et maintenant, il y a une plus grande sensibilisation justement sur l'allaitement et les bénéfices de l'allaitement. Et on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont intéressées par le fait d'allaiter leurs enfants. Et c'est ce qu'on voit notamment à la semaine sur l'allaitement au CHU. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent pour prendre conseil et qui veulent être entourées.
Pas d'autres questions dans le public. Si j'avais une dernière question à poser, tu nous as parlé un petit peu de tout ce qui... Ben, toutes les questions que ça avait fait aussi émerger en analysant ces entretiens. Et pourquoi pas diriger des thèses maintenant pour donner une certaine transgénérationnalité à la question.
C'est ce que mes maîtres de thèse m'ont dit aussi. Pour le moment, je n'ai pas eu de thésard qui est venu frapper à ma porte, mais pourquoi pas. Bah, c'est un sujet que maintenant, je connais bien.
D'accord. Donc, il faut qu'on t'envoie des thésards et tu les prends
en charge.
C'est
possible, oui.
D'accord. On va t'envoyer des thésards.
OK.
Ça peut se faire. Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre attention et puis pour vos questions.
Et bonne soirée.
Bonne soirée.